Thibaut de Rouvray, bonjour.
Bonjour Mathias Terrier.
Vous êtes historien, vous êtes président de la Société académique des Hautes-Pyrénées et vous nous faites découvrir à frais nouveaux notre patrimoine, celui qui est proche de nous, que nous voyons souvent, que nous croisons. Nous avons parlé, par exemple, ces dernières semaines de nos cimetières, la façon que nous avions d'enterrer nos morts et puis comment tout cela a évolué au cours des siècles. Voici qu'aujourd'hui, vous portez notre regard sur les abbayes et les monastères en Occitanie. Et là, peut-être qu'il va falloir faire un petit peu d'histoire pour nous, monsieur l'historien, et de l'histoire religieuse. Est-ce qu'on peut dire que, globalement, la chronologie des fondations eh bien, vit au rythme des ordres religieux tels qu'ils se déploient et tels qu'ils se développent?
Oui, c'est le reflet aussi de l'évolution de la société, des tendances, des adaptations aussi de la religion et des hommes à leur temps. Donc chaque époque est représentative aussi de fondations un peu diverses.
Aux origines, sans doute qu'il n'existe pas d'abbaye et de monastère tels que nous les voyons ou les imaginons aujourd'hui. C'est plus simple que ça, parce que ce sont essentiellement des ermites, donc des ermitages qui se façonnent et se construisent.
Oui, c'est un peu sur le modèle en fait des ermites d'Égypte hein, ou de Saint-Antoine, le père des moines, qu'on retrouve dans des régions parfois très isolées, comme dans les Pyrénées ou dans les montagnes du Rouergue, là où on a des personnages, Savin, Orens, Justin ou Gosbert, hein, qui se retirent comme ça à l'écart du monde et qui prient, qui ont quelques adeptes autour d'eux et qui souvent voilà, vont donner naissance à des villages ou à des abbayes bien plus tard.
Et que font les moines bénédictins? Eux aussi, ils sont des fondateurs, les moines bénédictins, et dans notre région.
Oui, alors c'est vrai que l'idéal de Saint-Benoît au départ, c'est aussi un peu la vie en tant qu'ermite, mais il fonde des communautés, il édicte une règle. Donc les plus anciennes abbayes de la région, comme celle de Moissac, qu'on fait remonter au 7e, 8e siècle, sont des fondations des moines bénédictins.
Et ces fondations, enfin cette tradition bénédictine va traverser les siècles. Hein.
Oui, alors parfois avec des soubresauts, c'est vrai qu'au XVIIe siècle, il y a souvent une remise en cause de l'ordre, notamment parce que la règle n'est pas toujours bien suivie. Et là, on voit intervenir une réforme qui est menée par les bénédictins de Saint-Maur, ou les mauristes hein, qui sont présents, qui ont un prieuré à la Dorade de Toulouse, et qui vont réformer un certain nombre d'abbayes dans la région.
Bénédictins, et parlons maintenant cisterciens. Les cisterciens, quelles traces laissent-ils dans notre région ?
Et les cisterciens, voilà, sous l'impulsion de Bernard de Clairvaux, qui est l'un de leurs fondateurs. Alors, ils suivent toujours, comme les bénédictins, la règle de Saint-Benoît, mais ils sont un peu en réaction face parfois au luxe des bénédictins illustrés par l'ordre de Cluny. Donc les cisterciens veulent revenir aux fondamentaux. Il y a une grande pauvreté aussi dans les bâtiments et dans la pratique de la liturgie. Et ils nous ont laissé voilà, quelques beaux exemples d'abbayes, comme celle de l'Escaladieu dans les Hautes-Pyrénées, ou de Sylvanès, ou celle de Bonnefond en Haute-Garonne.
Donc là, on traverse les siècles avec vous. On a parlé du 7e siècle avec les bénédictins, ensuite du 12e siècle avec les cisterciens, bon, Escaladieu, Sylvanès, Bonnefond. Les ordres mendiants, c'est plutôt 13e, 14e siècle.
Oui, les ordres mendiants, en fait, ils sont très liés au développement de l'économie médiévale et, je dirais, à l'importance de plus en plus importante, de plus en plus accrue qui est donnée aux villes, aux cités marchandes, qui vont attirer ces nouveaux religieux qui vont, comme leur nom l'indique, mendier pour pouvoir survivre.
Quels sont-ils, ces ordres mendiants? Commençons par peut-être un des plus connus, les franciscains.
Oui. Tout à fait, les frères franciscains, qu'on appelle aussi frères mineurs ou cordeliers, qui sont fondés par François d'Assise au tout début du XIIIe siècle et qui vont très rapidement s'étendre, hein, puisque au Moyen-Âge, on compte jusqu'à près de 5000 frères dans cet ordre.
Alors, tout proche des franciscains, il y a les capucins, j'ai même envie de dire, qui s'inspirent de saint François d'Assise également.
Oui, c'est voilà, le fondateur est le même, c'est une branche un peu séparée au XVIe siècle, mais qui obéit aux mêmes règles.
Autre ordre mendiant très connu dans notre région, les dominicains.
Et oui, tout simplement aussi parce que Dominique de Guzman, qui fonde cet ordre en 1215, il le crée pour la première fois, la première maison des dominicains est à Toulouse.
Oui. Et les carmes également, qui sont présents à Toulouse?
Oui, les carmes, alors qui existent toujours à Toulouse, mais dont le monastère médiéval a disparu, il était à l'emplacement du marché des carmes, qui existe toujours.
Leur origine, c'est plutôt bien sûr la Palestine, et c'est une origine érémitique.
Voilà, tout à fait. Là aussi, c'est par des ermites qu'ils sont créés, cet ordre de carmes, et ensuite qui va essaimer en Europe à partir du XIIIe siècle.
Est-ce qu'il y a d'autres ordres qui ont fondé des abbayes et dont on aurait trace dans notre région ?
Oui, après, à l'époque moderne, donc c'est-à-dire à partir du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, il y a voilà, de nouveaux ordres qui apparaissent. Les Annonciades, qui avaient fait fonder un petit couvent à Rodez. Il y a aussi d'autres ordres comme les Minimes à Toulouse ou les Ursulines de Tarbes.
Tous ces ordres dont nous venons de parler sont fondateurs d'abbayes, fondent des monastères ou des abbayes.
Oui.
Et donc cela irrigue notre région. Est-ce qu'il y a aussi peut-être des évolutions, des nouveaux destins pour les lieux à partir du 19e siècle? Là, on se rapproche un peu de nous.
Oui, puisqu'à la Révolution, au tout début de la Révolution, les vœux monastiques, les ordres religieux sont supprimés. La plupart des abbayes sont vendues comme biens nationaux et changent de destin, mais parfois ne retrouvent pas forcément de religieux. C'est le cas des Jacobins de Toulouse qui sont transformés en casernes, qui vont être heureusement conservés et restaurés par la suite. Et parfois, sous l'impulsion souvent d'évêques, des nouveaux ordres vont être appelés pour réhabiter ces lieux chargé d'histoire qu'étaient les abbayes. J'ai l'exemple en tête dans l'Aveyron de l'abbaye de Conques, qui était une abbaye bénédictine et qui va être repeuplée à la fin du XIXe siècle par des moines prémontrés. Ou l'ancienne abbaye cistercienne de Bonneval, là aussi près d'Espaguillon, dans le nord du Rouergue, où ce sont des trappistines qui vont investir les bâtiments.
Il y a d'autres sœurs encore, comme les sœurs de la Sainte Famille aussi.
Oui, au XIXe siècle, il y a aussi des nouveaux ordres qui sont créés. Les sœurs de la Sainte Famille, c'est une fondation d'Émilie de Roda à Villefranche-de-Rouergue, ou aussi dans le diocèse de Tarbes, les sœurs de Saint-Fray.
Bon, voilà, on a vraiment là passé en revue par la chronologie, finalement, tout ce que les ordres, les divers ordres ont pu fonder un peu partout, abbayes et monastères. S'agissant maintenant de ce qu'ils fondent très concrètement, les plans, quoi, entrons un peu dans le concret, dans la logique de leur lieu de vie, de spiritualité, de prière. Bénédictins et cisterciens, quel est leur mode de fondation sur ce plan-là, du point de vue architectural ?
Alors c'est vrai qu'ils sont souvent liés à l'origine un peu des ermites, c'est plutôt des lieux, des monastères ruraux, isolés en principe, mais toujours quand même relativement proches de voies de passage. Il faut que des pèlerins puissent venir vénérer les reliques des abbayes, aussi apporter des aumônes. Et on en a l'exemple avec parfois des monastères qui ont donné lieu à des abbayes, ensuite à des villes comme Moissac ou Conques. Et c'est un plan, ce qu'on peut appeler le plan bénédictin, ce que vous évoquiez, il est assez simple, c'est l'imaginaire un peu qu'on a d'une abbaye, c'est une église abbatiale, à côté un cloître, donc cette cour entourée de portiques, de galeries, et autour de laquelle vont se distribuer les différents bâtiments, alors à la fois les bâtiments utilitaires comme la salle capitulaire, le dortoir, le réfectoire, mais aussi tous les bâtiments agricoles, les moulins et autres granges.
Les ordres mendiants opèrent, j'imagine, un peu différemment des cisterciens ou des bénédictins. Ils fonctionnent différemment, déjà, on l'a compris. Ils vivent différemment et donc, sans doute, font-ils différemment?
Oui, puisque le but des mendiants, c'est quand même d'avoir très peu de revenus. Et puis les aumônes qu'ils collectent, le but principal, c'est de les redistribuer aux plus pauvres. Donc voilà, les premiers couvents mendiants sont très modestes. Souvent, c'est une maison qui accueille quelques frères. Au début, en général, il n'y a pas toujours d'église. C'est que par la suite, quand ces couvents prennent un peu d'ampleur, qu'ils vont bâtir un peu plus, de façon un peu plus ostentatoire.
Ils sont plutôt en milieu urbain, les ordres mendiants?
Oui, c'est vrai que c'est une, pas une étude de marché, mais on pourrait qualifier ça un peu comme ça. Ces ordres, quand ils s'implantent dans un lieu, ils font en sorte que d'étudier l'économie locale. Il faut que la ville dans laquelle ils s'établissent soit assez riche, qu'il y ait assez d'échanges pour leur fournir des subsides.
Donc ils choisissent des agglomérations pour pouvoir mendier, donc demander l'aumône,
oui.
Et pour pouvoir ainsi vivre. Vous m'avez indiqué, alors j'étais un peu surpris, que finalement c'est presque consubstantiel à une ville que d'avoir un ordre ou des ordres mendiants.
Oui, alors c'est vrai que de nos jours, quand on veut qualifier une agglomération de ville, on se base sur un nombre particulier d'habitants. Pour l'historien du Moyen-Âge, c'est un peu plus complexe et on a un certain nombre de critères pour définir la ville. Et parmi ces critères, il y a l'existence de un ou plusieurs couvents mendiants dans les murs ou en périphérie de l'agglomération.
Vous l'avez un peu indiqué tout à l'heure, quand on pense à une abbaye, à un monastère, en fait, c'est surtout le modèle bénédictin qu'on a dans la tête. C'est un peu l'image d'Épinal.
Tout à fait.
Est-ce que c'est ce qui a été reproduit alors à une époque plus moderne, 19e, voire 20e siècle, pourquoi pas ?
Oui, on reste quand même, surtout au 19e siècle, on redécouvre un petit peu le Moyen-Âge, on refait du style gothique ou du style roman. Mais voilà, c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, et aussi finalement, c'est un plan qui a fait ses preuves, il y a des siècles d'existence. Donc même dans des lieux bâtis de toutes pièces au 19e siècle, on garde cet ordonnancement avec l'église de la communauté, le cloître et puis les bâtiments qui s'organisent autour.
Donc c'est désormais un plan classique.
Tout à fait.
Merci beaucoup pour cette visite dans notre histoire, dans l'histoire de nos abbayes et nos monastères en Occitanie. Thibaud de Rouvray, à très bientôt sur cette antenne. Au revoir.
Merci, à bientôt.